Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Shakespeare écrit quelque part que la séparation est un doux chagrin, et pour nombre d'entre nous, cette épreuve rime avec bleu à l'âme, déprime, rumination, regret. Tout au long de la vie, nous vivons une succession de séparations qui peuvent laisser des traces indélébiles, qu'il s'agisse de la nécessaire séparation d'avec ses parents, du départ des enfants devenus grands, de la rupture avec l'être aimé, des brouilles amicales ou familiales, d'un licenciement ou de la perte d'un proche. Quelles sont les pistes pour que ces ruptures de vie deviennent le point de départ d'une meilleure connaissance de soi dans le but de tisser des liens adultes avec les autres? Nous verrons également s'il est vraiment possible de se séparer sans haine ni colère. Regard psychanalytique sur cette épreuve qui nous touche à tous les âges de la vie, du premier cri à l'ultime soupir, avec Moussa Nabati qui vient de publier Réussir la séparation, et avec la spécialiste du couple Fabienne Kramer. Mes complices aujourd'hui, la psychiatre Aurélia Schneider et la journaliste de Femme Actuelle Marie-Laure Zonshine. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébéi.
Bonjour à nos invités, bonjour Fabienne Kramer.
Bonjour.
Psychanalyste, spécialiste du couple, experte éclairée de notre émission. Bonjour Moussa Nabati.
Bonjour.
Psychanalyste et docteur en psychologie, l'auteur à succès du Bonheur d'être soi. Vous venez de publier chez Fayard un ouvrage très éclairant, Réussir la séparation pour tisser des liens adultes. Quel est le sens du mot séparation pour les psychanalystes que vous êtes? Tiens, Fabienne Kramer.
Mais vous l'avez bien dit dans votre introduction, Ali, et vous m'avez un peu piqué l'idée qu'on doit vivre et devenir adulte, c'est apprendre à se séparer tous les jours. Et en arrivant ce matin à France Inter, la dame à l'accueil m'a dit « Vous n'allez pas nous faire croire que la séparation, c'est un truc cool. Et je vais vous écouter. » Et justement, si, je crois que la séparation, c'est quelque chose de cool et d'absolument nécessaire. C'est un passage où on passe notre vie à nous séparer jusqu'à la séparation ultime, qui est la séparation de la vie.
Moussa Nabati.
Voilà, alors toutes les séparations, enfin, donc, si vous voulez, le livre que j'écris n'est pas uniquement sur la problématique du couple. Donc, c'est, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la séparation du début jusqu'à la fin. À se séparer de sa mère, de ses parents, etc. Et plus tard, se séparer de ses enfants, le couple. Et puis, vous voyez, enfin, avec les objets aussi, par exemple, se séparer des objets. Il y a des gens qui ont une difficulté absolument majeure à se séparer des objets. Ça s'appelle le syndrome de Diogène. Mmh. Il y a des gens qui ont un mal fou également à se séparer de l'argent, dans l'avarisme. Se séparer à la retraite de son travail, se séparer enfin de la vie pour accepter de partir. Donc la séparation, c'est quelque chose qui commence, vous l'avez bien précisé, du début jusqu'à la fin. Mais il y a également la séparation, enfin j'en ai parlé dans le livre, intra-psychologique, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Par exemple, séparer dans le sens de différencier, si vous voulez, la raison de l'émotion. Il y a des gens qui sont emportés par une émotionnalité tsunamique et ne font absolument pas fonctionner la raison et la pensée. La séparation entre le fantasme et la réalité, la séparation entre les trois dimensions du temps, dans le sens de différenciation. Il y en a qui sont complètement dans l'avenir, l'utopisme, dans les illusions. Il y en a qui sont complètement conservateurs et passéistes, etc. Voilà, la séparation entre son intériorité et l'extériorité. Beaucoup de nos patients misent sur l'extériorité en croyant que le changement d'époux, d'épouse, de résidence, de travail va les amener au nirvana, et ils sont déconnectés par rapport à leur intériorité.
La séparation, c'est toujours une épreuve. Et est-ce que c'est l'une des plaintes les plus fréquentes, les plus récurrentes dans vos cabinets respectifs, Fabienne Kramer?
Alors, c'est vrai que suite à une séparation, souvent on a un tel désarroi, une telle souffrance, un tel débordement d'émotions que ça peut être une des causes principales de consultation. Mais on va pas rester là-dessus. Parce que la séparation, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'un avenir. Donc on peut aussi se tourner vers la suite, vers l'avenir, et c'est toujours peut-être destructeur un instant et constructeur pour le reste de la vie.
Moussa Nabati.
Alors je reprends exactement le terme que vous avez employé, c'est-à-dire la séparation est une épreuve. Mais en français, le terme d'épreuve a trois significations. D'abord, c'est la douleur, c'est une souffrance. Pour certains, c'est absolument impossible et insupportable. Il y en a qui se suicident ou tuent leur partenaire, etc. Donc, dans le sens de la douleur, l'épreuve signifie également le test. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que les fragilités ou la solidité de la personne peuvent apparaître, mais l'épreuve a aussi une troisième signification qui est le cheminement initiatique. C'est-à-dire, effectivement, la séparation permet, voilà, de tisser des liens adultes, c'est-à-dire permet de se, voilà, de faire un petit peu le, enfin, prendre de la distance par rapport à son enfant intérieur, par rapport à son enfance, etc., et de devenir un peu plus soi, un peu plus autonome psychologiquement, un peu plus adulte. Je dirais exactement la même chose par rapport à la dépression. C'est-à-dire la dépression qui est horriblement combattue dans notre modernité est aussi une épreuve, c'est-à-dire qu'effectivement, ça n'est pas une maladie que nous devons guérir, mais c'est quelque chose qui est venu nous dire qu'on était depuis longtemps mal en point et on était depuis longtemps pas soi. Et donc la dépression est venue nous guérir en fait.
C'est quoi l'enfant intérieur? Ça revient très souvent dans votre ouvrage, Réussir la séparation. Expliquez-nous ce que c'est.
Voilà. Alors par exemple, vous voyez, pour le cas de la séparation ou de la rupture, enfin les deux termes d'ailleurs ne sont pas synonymes. Dans le couple, l'enfant intérieur, c'est pour dire qu'effectivement c'est une espèce de théâtre de marionnettes. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est la femme adulte et l'homme adulte, si vous voulez, qui se détestent, qui s'attirent ou qui se fascinent, etc. Mais en fait, ils sont bien plus parlés, ils sont bien plus agis que ne sont acteurs et ne sont parlants. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont agis, si vous voulez, par l'enfant intérieur. C'est-à-dire le petit garçon qu'on était, la petite fille qu'on était, avec la détresse, avec les rêves, avec les illusions. Et aussi, on l'oublie souvent, avec l'héritage transgénérationnel, c'est-à-dire avec les enfants intérieurs de nos parents qu'on a hérités, c'est-à-dire on s'est érigé à un certain moment pour compenser l'échec de nos parents, pour réaliser leurs rêves, etc. Ou on peut aussi s'organiser pour se faire échouer, pour agresser nos parents. Donc l'enfant intérieur est beaucoup plus acteur dans le cas, par exemple, de la séparation-rupture, que les adultes, enfin bon.
Aurélia Schneider, je rappelle que vous êtes psychiatre.
Hein. Oui, alors moi je suis très sensible à cette notion d'enfant intérieur, parce que quelquefois mes patients s'effondrent littéralement en larmes avec des chagrins, des sanglots. Oui. Et là on sait que c'est l'enfant. Sait que c'est l'enfant, parce que ce sont les sanglots d'enfant.
Absolument.
Et j'avais lu un article sur une psychanalyste australienne qui disait quelque chose de magnifique, qui disait à ses patients: vous venez me voir, mais vous tenez par la main un enfant.
Absolument.
Et on a des choses à se dire.
Absolument.
Tous les trois.
Absolument.
J'ai trouvé que cette phrase était sublime,
sublime
et très vraie.
Dans la séparation de couple, par exemple, effectivement, c'est une épreuve. C'est une blessure narcissique, etc. Mais enfin, il s'agit d'un tragique existentiel. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui devrait s'accompagner, voilà, je vais donner une image idiote, de 2, 3, 4, 5, 10 kilos de souffrance. Mais quand vous êtes dans le cas d'une séparation de couple ou dans le cas d'un licenciement, qu'il s'agit aussi d'une séparation écrasée par 10 tonnes de souffrance, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une problématique dans ici et maintenant par rapport à l'épreuve, par rapport au traumatisme que vous êtes en train de subir, mais ça veut dire que l'épreuve que vous subissez dans ici et maintenant fait remonter à la surface, effectivement, toute la souffrance et la détresse de l'enfant intérieur que vous avez été avant.
Fabienne Kramer, vos patients ressassent des histoires d'abandon, de délaissement, d'éloignement, d'exclusion, de lien cassé, avec le rêve de réparer ce lien cassé?
Ou le rêve de ne pas le réparer. Enfin oui, de revenir en arrière, c'est-à-dire de retrouver... Il y a beaucoup de patients... Ah, j'aurais tendance à dire un peu plus les hommes que les femmes, ça va pas plaire, mais je le trouve quand même, il y a beaucoup de patients qui refusent la séparation, c'est-à-dire qui obstinément refusent de la voir, refusent de l'accepter, refusent de l'acter et de passer outre. Alors bon, la première séparation, c'est quand même la séparation de la mère, donc je pense que c'est ça qui se joue à chaque instant, que vous expliquiez extrêmement bien, et quand l'enfant surgit, il est à nouveau séparé de sa mère. Et ça, il le refuse brutalement.
Géraldine nous dit sur notre page Facebook on voit vers une séparation après 15 ans de vie commune. Je me demande si on peut réussir, entre guillemets, une séparation. Question Moussa Nabati, sur l'aspect réussite d'une séparation.
Oui, on peut réussir une séparation, c'est très simple, en fait. Mais le problème majeur qui fait échouer la séparation, c'est qu'en fait... Quand on était, enfin, dans notre enfance, c'est-à-dire dans ailleurs et avant, par rapport à l'enfant intérieur, on a subi des ruptures. C'est-à-dire que quand la relation, si vous voulez, fusionnelle entre la mère et l'enfant est rompue, quand l'enfant est sous-alimenté narcissiquement, sous-alimenté de l'amour maternel, donc en fait, cette rupture avec la mère, parce que la mère, non pas forcément parce qu'elle est mauvaise, mais parce que elle-même elle est déprimée, elle-même elle est accompagnée par quelqu'un qui la maltraite, etc. Quand l'enfant n'est pas aimé, enveloppé dans la gratuité du désir, à ce moment-là, il y a une rupture, si vous voulez, qui s'opère. Et cette rupture empêche justement la séparation avec la mère, c'est-à-dire ça intensifie la relation fusionnelle avec la mère, c'est-à-dire la mère, l'enfant, est toujours en attente. Alors c'est pour ça que plus tard dans son couple, l'enfant va rechercher des relations fusionnelles, passionnelles. C'est-à-dire que l'autre, ça sera comme un médicament. L'autre, ça sera comme un sauveur. L'autre, ça sera pas une personne adulte, mais un objet qui lui est vitalement nécessaire pour qu'il se sente en vie et pour qu'il se sente reconnu. C'est à ce moment-là que la séparation, effectivement, n'étant pas synonyme de rupture, c'est à ce moment-là que cette séparation dans le couple va rappeler la rupture et l'abandon dont il a été victime dans son ailleurs et avant, et qui est resté en suspens, pas résolu.
Par rapport à votre auditrice, que moi je voulais dire pour le couple, on peut très bien avoir raté son mariage, avoir été assez défaillant, et au contraire offrir à nos enfants, offrir à la suite une très bonne séparation. Et l'idée, c'est de, bien sûr qu'on va rompre le couple, mais on reste un couple parental, et c'est à ce niveau-là, en se poissant du point de vue des enfants que l'on a, etc., que l'on peut essayer de rester solide.
Moussa Nabati, vous l'affirmez tout au long de votre ouvrage, il est illusoire de se lancer dans une quête acharnée pour maintenir les liens. Le but de votre livre, d'ailleurs, c'est de nous fournir des pistes pour détricoter certains liens quand il le faut.
Absolument, parce que en fait, le vrai lien que la psychothérapie, le but de la psychothérapie, le vrai lien qu'il s'agit de construire, si vous voulez, tout au long de la psychothérapie, c'est le lien avec soi-même, c'est-à-dire de réparer le clivage. Voyez. Donc alors, après, à partir du moment où on est en contact avec soi-même, c'est-à-dire en contact avec son enfant intérieur, parce que la plupart du temps, les pathologies, si vous voulez, d'un névrose, ça provient du fait qu'on a voulu se débarrasser de son histoire et de son passé, qu'on a voulu ne pas écouter du tout les plaintes de l'enfant intérieur. Ça, on a été dans le refoulement. On a essayé de traiter, si vous voulez, le cafard, comme on traite les cafards avec des tas de pesticides. Mais alors, ce qui est important à dire, je le répéterai sans cesse, c'est qu'en fait, notre problème, c'est les solutions. Notre problème, c'est la lutte, le combat, le déni, le refoulement. À partir du moment où vous faites avec, vous acceptez, vous mettez face aux choses, eh bien, le poids est allégé et donc l'éclairage arrive.
En fait, si vous n'apprenez pas à vous séparer des autres, c'est vous vous séparer d'une partie de vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à une partie de vous. Et donc, il est absolument nécessaire de délaguer, je dirais, notre vie assez régulièrement en créant des séparations pour pouvoir accéder à une meilleure pousse, à un meilleur personnage que vous pouvez atteindre. Parce que le corollaire de la séparation, quand on n'accepte pas la séparation, c'est la dépendance. Donc si vous voulez être libre, il y a de la liberté dans la séparation. Si vous voulez être libre, il va falloir vous séparer.
Être libre, Moussa Nabati, c'est s'engager dans des liens adultes. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire ne pas prendre son partenaire, si vous voulez, pour une mère. Voilà, ça veut dire effectivement essayer de faire le deuil de la matrice, de l'Éden matriciel qu'on n'a pas eu, et de réhabiliter ses parents intérieurs, et de ne pas placer l'autre. Alors l'autre, ça peut être notre conjoint, notre femme, mais l'autre, ça peut être également notre enfant. C'est-à-dire qu'on place nos enfants dans une place et dans une fonction de mère, on leur demande de nous donner l'affection dont on a été privé dans notre ailleurs et avant. Et à ce moment-là, évidemment, donc, ça sera de mal en pire.
Aurélia Schneider.
Oui, moi j'ai une petite formule pour ça. Je dis, il ne faut pas sacrifier l'autre sur l'autel de sa névrose. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à un moment, une disconnexion.
Absolument.
Et on se trompe de chemin,
absolument,
on se trompe d'objet.
Absolument. Mais je dirais, vous avez tout à fait raison, mais je dirais qu'il ne faut pas être trop dans le sacrifice. Parce qu'en fait, quelquefois, on a tendance à se sacrifier soit à autrui pour lui montrer qu'on est bon, qu'on est gentil et qu'on mérite l'amour et la tendresse maternelle, etc. On se sacrifie, mais en se sacrifiant à autrui, c'est ça la pathologie de l'altruisme excessif, en se sacrifiant à autrui, c'est en fait l'autre qu'on se sacrifie sur l'autel de son égoïsme à soi. Allez, quand on est une trop bonne mère, en fait, ça ne veut pas dire qu'on est une trop bonne mère, ça veut dire qu'on sacrifie ses enfants pour que ses enfants, si vous voulez, nous montrent qu'on est gentil, qu'on est bon, et qu'on n'a pas été un enfant, un petit enfant, notre enfant intérieur est digne d'amour et de tendresse.
Comment bien vivre une séparation? C'est notre thème aujourd'hui, en compagnie des psychanalystes Fabienne Kramer et Moussa Nabati. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier, et pour bien commencer, Michel Jonas.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de Marthe pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris, il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi.
Michel Jonas, interprété Dites-moi.
Alors je te laisse, bien sûr, en bas, hein, le Scrabble et le jeu de cette famille.
Grand bien vous fasse.
Ah oui, et dans le Scrabble, il n'y a plus le X.
Ah bah par exemple, on ne peut plus écrire X.
Sur France Inter.
Comment bien vivre une séparation, c'est notre thème aujourd'hui, en compagnie des psychanalystes Fabienne Kramer et Moussa Nabati.
Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce.
Dis-moi, Julie. Comment on sait quand nos parents, ils veulent divorcer?
Pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie.
Waouh!
En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr.
Il y a des maîtresses qui font école pour le papa empoisonné par les mamans?
Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard.
Julie, qui a l'air de bien vivre la séparation de ses parents dans Titoff. Moussa Nabati, je rappelle que vous êtes psychanalyste et que vous venez de publier Réussir la séparation. Alors, au commencement, notre naissance après un séjour paradisiaque de 9 mois dans le ventre maternel. Racontez-nous cette fusion totale qui unit le nouveau-né à sa mère, à ses deux parents, à son environnement. C'est là que se joue peut-être l'essentiel de notre vie.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il existe avant même la conception. C'est-à-dire avant même la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. L'enfant, il est conçu, parce que le terme de conception en français, c'est à la fois la conception organique, mais à la fois dans le désir. C'est-à-dire l'enfant, il a une place dans le désir, etc. Alors si la grossesse, le triangle parental a fonctionné de façon saine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de dispute, parce que les conflits sont aussi fondateurs. Mais ça veut dire que si l'enfant a été aimé pour lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas un médicament pour rafistoler le couple bancal, c'est-à-dire qu'il n'est pas un objet, si vous voulez, qui vient remplacer un enfant mort, s'il est né, s'il est conçu et né dans la gratuité du désir, et s'il y a la femme, qu'est-ce que ça veut dire la femme? La femme, c'est quelqu'un, c'est un être qui porte l'enfant, mais en même temps, c'est un être qui est aimé et par un homme, parce que c'est l'homme qui la rend femme et mère.
Dans donc, le couple hétérosexuel, évidemment.
Oui. Comment?
Dans le couple hétérosexuel.
Dans le couple hétérosexuel, voilà.
Alors, un attachement.
Si l'enfant naît dans des conditions-là, parce que même d'ailleurs la naissance de l'enfant n'est pas une naissance, parce qu'il continue à être de façon extérieure dans la grossesse, contrairement aux animaux. Oui.
Anne nous demande sur la page Facebook si la difficulté de la séparation n'est pas liée au lien d'attachement reçu dans la petite enfance. Et pour aller plus loin, est-ce que c'est pas la condition sine qua non, l'attachement réussi avec ses parents, pour se détacher sereinement?
Absolument.
Et tisser d'autres
liens?
C'est
le lien avec la mère, qui est un lien fondateur, et qui permet la séparation. Dans un premier temps, se séparer de la mère, pas physiquement, mais s'extraire de la matrice parce qu'on a été suffisamment nourri pour s'approcher du père, et puis après, pour investir et s'engager dans les objets. Mais en psychanalyse, l'objet, ça ne veut pas dire des choses, mais ça veut dire les personnes. Pour pouvoir s'attacher à eux et se détacher aussi sans drame, quand les circonstances l'exigent.
Fabienne Kramer, psychanalyste.
Oui, moi, j'ai habituellement, je dis à mes patientes, je pense aux patientes parce qu'il y a les mères aussi dans cette histoire-là. En fait, qu'est-ce que c'est que le job d'une mère? Le job d'une mère, c'est d'apprendre chaque jour à se séparer un peu plus de son enfant pour qu'il vise l'autonomie et pour qu'un jour, notre propre mort lui soit supportable. C'est-à-dire le mettre dans le courant de la vie. Et c'est un peu comme l'oiseau avec qui regarde ses oiseaux partir au bord du nid. Et il y a des moments, vous parliez du prolongement, à peu près jusqu'à 8 mois, il n'y a pas vraiment de différence entre le corps de la mère et le corps de l'enfant. Oui. Et donc, il y a des tas d'étapes qui sont importantes dans la vie d'une mère et de son enfant pour lui donner l'autonomie et lui permettre de devenir indépendante de sa mère. C'est ça notre travail.
Mais, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais seulement cette séparation que la mère va faire peu à peu au cours des étapes de l'évolution avec son enfant, bien sûr, c'est très important. Mais à mon avis, la chose encore la plus importante, c'est que cette mère soit vraiment psychiquement autonome,
oui.
C'est-à-dire que
capable.
Elle soit adulte elle-même, et voilà, qu'elle ne prenne pas son enfant pour une maman, et qu'elle ait réglé, qu'elle ait résolu et son problème de lien et de séparation avec sa propre mère. Parce qu'en réalité, la mère, on se sépare jamais.
Nassera nous dit sur notre page Facebook, ma fille de 7 ans a du mal chaque année à se séparer de sa classe de l'année précédente. Elle le vit avec beaucoup de tristesse. Pareil dans la vie en général, nous avons déménagé il y a 1 an et demi. Elle me parle encore de l'ancienne maison et des anciens copains. Elle est très nostalgique et a du mal à se séparer de ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Nassera Moussa Nabati?
Oui, peut-être qu'il y a eu des problèmes dans la petite enfance. Peut-être que certaines séparations ont été vécues par elle comme une rupture, et la rupture effectivement fait qu'on a tendance à se coller encore davantage. Et alors, il y a aussi des étapes, si vous voulez, par rapport aux parents. Je pense que plus on respecte ces difficultés de séparation, on comprend, on respecte, on accompagne, et si vous voulez, moins on lutte comme si c'était des symptômes pathologiques, etc. D'ailleurs, je dirais la même chose vis-à-vis de la dépression et l'angoisse. C'est très important d'être dans un état d'accueil et d'ouverture par rapport à toutes ces émotions qui, malencontreusement, ont été qualifiées de négatives. Donc, et puis, il faut accepter aussi qu'un certain attachement, une certaine dépendance, voilà, on ne sera jamais indépendant. On sera toujours en lien. Le cordon ombilical est un coupable.
Bonjour Isabelle. Vous appelez du Luberon. Bienvenue.
Bonjour.
Alors vous vivez une séparation d'avec votre fils.
Oui.
Qui vient de quitter la maison.
Oui, alors ça, c'est fou cette émission qui tombe là aujourd'hui dans un moment aigu de souffrance. Mmh. Ça m'a résonné et je ne sais pas si je vais arriver à parler sans pleurer, c'est très dur.
Racontez-nous votre histoire, Isabelle.
J'ai eu 27 ans de psychanalyse et qu'on s'est plus ou moins lâché avec mon analyste. Elle m'a d'abord lâché, que je vais lâcher après. Enfin bon, je pense être arrivée malgré tout à un moment où j'arrive, moi, j'ai suffisamment d'armes pour, et j'ai travaillé suffisamment en amont tout ça pour y arriver. Mais donc je me connais, j'ai eu quand j'étais enfant avec ma mère une relation très fusionnelle et j'ai subi l'abandon de sa part quand j'étais tout bébé et à plusieurs reprises quand elle partait travailler. Il y a eu des choses extrêmement douloureuses pour moi qui ont fait que l'abandon a été le cœur de ma vie, de mon existence. Et puis bon, après je me suis retrouvée seule avec mon fils, il avait un an. Je l'ai élevé seule jusqu'à aujourd'hui. Et la relation, la fusion s'est évidemment déplacée insidieusement sur mon fils et moi. Et donc malgré l'analyse et malgré tout le travail que j'ai pu faire sur moi, ce moment, depuis qu'il est rentré en seconde, j'appréhendais, je commençais à en parler quasiment chaque séance. Et effectivement, ce moment est arrivé le 1er septembre, puisqu'il est parti, pas très loin, mais qu'importe la distance, c'est pas là que ça se joue. C'est effectivement, c'est que mon petit, mon cœur, ma vie et le centre de ma vie et la chose grave que je n'ai pas faite, c'est de me préparer une vie à moi, puisqu'il a été le centre de ma vie. Je lui disais encore ce matin, puisqu'on s'est beaucoup accroché ce week-end et qu'on s'est quitté fâché, je lui disais, toi, tu es très entouré, tu as ta fac, tes copains, etc., ta copine. C'est plus facile pour lui, et tant mieux que je ne sois plus le centre de sa vie, parce qu'on a été tous les deux très, ça a été dur pour lui aussi. Il m'a appelé plusieurs fois en pleurs, en me disant, maman, j'y arrive pas. La fac, c'était immense amphi de 300. On était mieux au lycée, donc il y a effectivement... Il m'a dit, je me retrouve nostalgique, moi qui ne l'étais pas. Ça a été dur pour lui, je sens que là, il s'adapte. Par contre, pour moi, c'est beaucoup plus difficile, puisque je n'ai pas vraiment préparé le terrain pour moi. J'ai tout consacré à mon fils, donc je n'ai
Isabelle,
pas maintenant pas de compagnon, pas de rien, et la douleur. Et...
Isabelle, c'est un très, très beau témoignage, et Fabienne Kramer a envie de vous répondre.
Oui, je trouve votre témoignage extrêmement touchant, Isabelle. C'est la douleur que vous évoquez, c'est une douleur qu'on a plus ou moins à minima, qu'on appelle le nid vide, c'est-à-dire ce moment auquel on se prépare jamais réellement, nous les mères, on se projette pas trop dans ce moment-là, et vous le dites très bien, vous saviez que ça allait arriver, mais vous n'êtes pas projeté sur cette douleur-là, c'est une vraie douleur. En revanche, ce que je voulais souligner quand même que vous dites, c'est vous dites ma vie, mon centre... Je crois que les enfants, ils nous en demandent pas tant. C'est peut-être une petite erreur de la part des parents au départ de penser que on doit tout sacrifier et tout donner à nos enfants. C'est trop lourd à porter pour eux.
Qu'est-ce que vous conseillez, Isabelle? Moussana Bati.
Moi, je dirais deux choses d'abord, si vous voulez. C'est que vraiment, la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer de remplir son vide de façon extérieure avec d'autres personnes. Voyez, donc il faut être dans l'accueil du vide, parce que plus vous remplissez, plus le vide, il devient absolument immense. Voyez, ça, c'est effectivement très important. Et puis, deuxièmement, ce qui me paraît aussi fondamental, c'est que les enfants... Et les parents, ils sont dans un état de communication entre les inconscients. C'est-à-dire que les enfants, quelquefois, ils ont du mal à se séparer des parents, ou quelquefois, enfin souvent la mère, parce qu'ils ne s'autorisent pas à partir, comme s'ils devaient rester thérapeutes de la mère, de l'enfant, enfin de la petite fille en la mère, comme si c'était un abandon supplémentaire, une trahison. Et donc ils sont ils se sentent obligés de monter la garde et de continuer leur vie entière à rester l'enfant thérapeute.
Moi, je dis toujours que la relation parent-enfant, c'est une relation totalement asymétrique. C'est-à-dire que si les parents ont peut-être des devoirs vis-à-vis des enfants, les enfants n'en ont pas en réalité. Et donc le seul devoir qu'ils ont, c'est de prendre un jour leur liberté.
Le témoignage d'Isabelle me fait penser à cette phrase du romancier Grégoire de la Cour : l'amour filial est terrifiant, son but est la séparation.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça,
Moussa Nabati ? Ah oui, absolument. L'amour entre les enfants et les parents, c'est le seul amour qui, quand il est réussi, mène à la séparation, c'est-à-dire à l'individualisation de chacun. C'est l'individualisation de chacun qui permet le lien entre les adultes, tisser des liens adultes.
Cette histoire d'attachement parental et de séparation, c'est une valse à trois temps. Si je fais le plein d'amour parental, je m'autoriserai à m'aimer moi-même pour aimer les autres. C'est un peu ça le grand schéma, Fabienne Kramer ?
C'est le grand schéma idéal, mais ça dépend aussi de comment le parent, lui, va vivre. Je crois qu'on ne peut pas séparer la personne qui va se séparer de celle qui l'engendre. Et ça me semble extrêmement important que les parents aussi se préparent à ça et se disent, bien élever mon enfant, c'est en effet lui le rassurer, l'entourer, etc. Mais c'est aussi l'inviter à se séparer de moi.
Et bien vivre, enfin, c'est préparer ses enfants, c'est aussi et vivre soi et pour soi. Et avoir cet amour de soi, avoir cet égoïsme, etc. Et être dans le partage, parce que si vous donnez tout, et si vous vous privez, à ce moment-là, vous endettez les enfants, vous culpabilisez les enfants, etc. Et puis, vous les enchaînez et vous fabriquez des enfants thérapeutes à votre service toute leur vie.
Allez, il est l'heure des choses vues avec la psychiatre Aurélia Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es
chose vue.
Aurélia Schneider, c'est à vous.
Cher Ali, vous êtes optimiste de vouloir évoquer la séparation réussie, car c'est en fait tout et son contraire dans la même phrase, réussir quelque chose de douloureux. Nombreuses sont les situations de séparation qui peuvent nous affecter et qu'il faudrait surmonter dans les meilleures conditions. Par exemple, pour un couple, la rupture est un événement profondément déstabilisant. On s'inquiète pour soi, je n'y arriverai jamais, je vais me retrouver seule. Quant à l'autre, il risque d'être agressif ou de sombrer. Enfin, les enfants seront détruits par notre échec. Et nos émotions vont de pair avec nos pensées négatives. Nous sommes culpabilisés, angoissés et tristes. On oublie que la vie a été possible sans l'autre avant la rencontre, que l'autre doit être une valeur ajoutée, pas une source de souffrance, que parfois il faut se séparer pour rester en bonne santé, que cela peut être un soulagement pour les enfants, et que si un jour on retombe amoureux, on retrouvera intactes ces belles émotions que l'on pense perdues à jamais. Je vais peut-être vous surprendre, mais pour parler de séparation réussie, nous allons parler d'amour. L'erreur étant de croire que plus on se déteste, plus c'est facile de se quitter. Car il va justement falloir trouver un terrain d'entente alors qu'on ne s'entend plus. Ainsi, pour bien se séparer, il faudrait s'aimer encore un peu, suffisamment pour que ce ne soit pas la guerre. Certes, il n'y a pas de sentiment amoureux, mais l'idée est de s'appuyer sur un attachement respectueux et la confiance, afin que ces valeurs aident à la séparation. Se respecter au lieu de vouloir faire payer à l'autre ce qu'il nous a fait. Ou plutôt, ce que nous nous sommes mutuellement infligés, car dans un couple, on est toujours deux qui en sont arrivés là. Nous avons changé, nous avons pris au cours du temps des directions différentes, on aura bien essayé de continuer, parfois aidé par un thérapeute, mais sans succès. Il faut aussi un peu d'amour de soi pour vouloir arrêter de souffrir dans le cadre d'une union qui ne nous convient plus. Or, aucun engagement n'oblige au combat, à la souffrance ou au sacrifice. En mutualisant les forces positives restantes, serait-il possible d'épargner les petits otages que sont les enfants et que les deux membres du couple parviennent à se reconstruire ? Concrètement, on s'aime, on se fait du bien, alors on reste ensemble. On s'aime et on ne veut pas se faire de mal, alors on se sépare. Enfin, toujours dans les paradoxes, pourrions-nous travailler au bonheur et à la joie ? Récemment, ici même, en référence à une situation de deuil dramatique, une auteure parlait d'inventer une manière joyeuse d'être triste. La rupture sentimentale est aussi un deuil, à l'origine d'une immense souffrance. Au même titre que la joie s'inscrit dans le quotidien du couple, elle a certainement sa place dans les méandres de la séparation, au moins dans le rappel des moments heureux, et aussi dans la recherche active d'une forme de sérénité, car les choses sont faites dignement. Rien de sauvage ou de rancunier. Agresser l'autre, c'est s'agresser soi-même. Vouloir le pulvériser, c'est pareil, cela revient à se faire terriblement mal. Restons conscients de l'amour sur lequel jadis ce couple s'est édifié. C'est nous disqualifier nous-mêmes que de disqualifier notre choix. À une période révolue de notre vie, nous avions probablement d'excellentes raisons de le faire, qui relevaient de notre fonctionnement ou dysfonctionnement de l'époque. Parfois même, l'autre a été pour nous une véritable bouée de sauvetage. Pouvons-nous encore lui en être reconnaissants ? Alors tâchons d'aimer bien l'autre et nous-mêmes pour réussir l'exploit que tout le monde reste debout après ce tsunami. Au mieux, gardons des liens forts, d'entraide réciproque, pour le meilleur et le pire. Dites-moi, chère Ali, que pensez-vous de ces couples qui parfois réussissent tellement bien leur séparation qu'ils se remettent ensemble ?
Je vous dirai ça en antenne, Aurélia Schneider. Les choses vues d'Aurélia Schneider à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, dans quelques instants, nous évoquerons quelques cas de séparation difficile et quelques solutions qui pourront vous être utiles. The Raconteurs, Help Me Stranger.
J'ai du mal à accepter les séparations, toutes les séparations, même quand c'est pas les miennes.
Grand bien vous fasse.
Ross et Rachel dans Friends, ça m'a tué. Je suis pas allé en cours pendant une semaine.
Ali Rebéi.
C'est Ross qui avait raison, ils avaient fait un break.
Sur France Inter.
Comment bien vivre une séparation, c'est notre thème avec les psychanalystes Moussa Nabati et Fabienne Kramer. Au fond, qu'est-ce qui est si difficile dans une rupture ? Fabienne Kramer, en quittant l'autre, on se coupe d'une partie de soi-même, emporté à jamais, c'est un peu ça qui se joue.
Mais on l'a bien expliqué, je crois que ce qui est difficile dans une séparation, c'est qu'on rejoue sans arrêt la même séparation jusqu'à la séparation ultime. Et donc, toutes nos séparations nous évoquent des séparations de l'enfance qui ont été des séparations douloureuses, tout simplement.
Je dirais rupture. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir du moment où il y a rupture, séparation, que ce soit dans le couple ou ailleurs d'ailleurs, hein, je disais tout à l'heure par rapport aux objets, par rapport à l'argent, par rapport à la retraite, etc. Si vous voulez, parce que plus on avance dans l'âge, et plus on se rapproche de son enfance, de son passé, et des problèmes qui n'ont pas été résolus. Donc en fait, c'est que quand on rencontre des phénomènes comme ça à l'âge adulte, c'est qu'on est renvoyé complètement aux angoisses d'abandon, de perte, de mort et de solitude. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire que les angoisses que beaucoup d'adultes éprouvent par rapport à la mort, par rapport à la solitude, par rapport à la perte et abandon, ce ne sont pas des angoisses qui se rapportent à des événements qui peut-être vont se produire un jour dans l'avenir, ou des événements, enfin des traumatismes qui sont actuels, mais ça renvoie toujours par rapport à ce qui fut dans ailleurs et avant. Donc, c'est ces problèmes-là qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas fuir, et voilà, il faut les accueillir.
Moussa Nabati, dans votre ouvrage « Réussir la séparation », l'unique projet de ce livre, c'est de nous apprendre à devenir soi. Ça veut dire quoi exactement? Et en quoi ça peut nous aider à réussir nos séparations?
Voilà, quand on devient soi, c'est-à-dire quand on n'a pas besoin, parce que je différencie le terme de besoin et du désir, quand on n'a pas besoin vital de l'autre qui va servir d'été, qui va servir de médicament, de canne, d'antidépresseur, quand on n'a pas besoin de l'autre, c'est un besoin infantile, qu'on considère comme la mère, c'est à ce moment-là qu'on peut développer le désir adulte d'être en lien, d'être dans la réciprocité, etc. Et c'est quand on est dans le désir de lien qu'on s'accepte imparfait, qu'on accepte l'autre imparfait et qu'on a accès au tragique existentiel. Le tragique existentiel, ça veut dire que l'autre peut quelquefois m'agresser, peut quelquefois me frustrer. Vous voyez, s'il n'est pas obligé de me remplir. D'ailleurs, c'est le sens de beaucoup de divorces. On a l'impression que voilà, que le bonheur, alors qu'en fait le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est une aspiration infantile à retrouver la matrice. Donc on a l'illusion que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, pourra nous donner ce sentiment de bonheur. Alors quand on est soi, on a cette autonomie psychique qui nous permet d'être en lien et de ne pas courir à droite et à gauche.
Fabienne Kramer.
Oui, brièvement, je dirais que être soi, c'est avoir pris conscience qu'on est toujours seul. C'est-à-dire que tous les liens que l'on a sont en réalité des liens factices. Et la réalité, c'est que nous sommes tous seuls.
Et vous nous conseillez, Moussa Nabati, de cultiver notre intériorité. Vous citez Bouddha dans votre ouvrage, « Pour gagner le combat, il faut renoncer à vaincre ».
Ah oui, absolument. Vous savez, pas seulement vis-à-vis du couple, hein, dans toutes les dimensions de notre vie, le combat est absolument désastreux. Vous voyez, pour l'antibiothérapie qui produit des couches mutantes, tous les pesticides dont on parle, etc. Vous voyez, donc en fait, la lutte, pourquoi la lutte? Parce que la lutte, si vous voulez, le combat, ça nous demande de dépenser de l'énergie. On dépense de l'énergie, donc ça nous épuise. Mais cette énergie qu'on a dépensée ne se volatilise pas. Elle est immédiatement récupérée par l'indésiré, par le symptôme qu'on ne veut pas. Donc le symptôme, il devient de plus en plus fort. Et nous, on s'affaiblit de plus en plus jusqu'à ce qu'on soit dévoré.
Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
Vous appelez d'Orléans, bienvenue.
Oui.
Nous écoutons votre témoignage, Martine.
Oui, j'ai l'impression que votre émission est faite pour moi ce matin, c'est incroyable.
Tant mieux.
Voilà, je ne sais pas si je vais trouver les mots, je n'ai jamais eu l'occasion de parler sur une antenne quelconque, donc...
Nous écoutons avec bienveillance, Martine.
Voilà, j'ai vécu depuis le mois de juillet deux séparations qui ne sont pas du même ordre, mais qui sont liées. En juillet, j'ai perdu mon compagnon de 17 ans, enfin, nous vivions ensemble depuis 17 ans, il est décédé dans mes bras en 30 secondes. D'un infarctus foudroyant. Quelques jours après, au moment de ses obsèques, ma sœur, qui était venue donc assister à ses obsèques, a décidé, dans une espèce de psychodrame dont je vous passerai les détails et pour des raisons qui lui appartiennent complètement, voilà, de me sortir de sa vie. Voilà, donc deuxième rupture. J'ai l'impression que votre émission est faite pour moi parce qu'effectivement je n'arrive pas à me sentir complètement démolie par ces deux ruptures. J'ai l'impression que ça va m'aider à repartir sur quelque chose de nouveau, à me fortifier, voilà. Et je profite aussi de ces épisodes pour quitter donc ma ville où j'habite actuellement et pour repartir chez moi en Bretagne où j'espère là, pouvoir recommencer, reconstruire quelque chose.
Joli témoignage, Martine, oui. Et nos deux psychanalystes ont envie de vous répondre, Fabienne Kramer.
Mais ce que nous dit Martine, c'est que la rupture, c'est aussi le début de l'avenir. C'est-à-dire que sans rupture, on ne se tourne jamais vers l'avenir et elle le vit je dirais correctement, certainement qu'elle a des souffrances, parce qu'elle prend conscience que ces deuils-là, quelque part, ça peut être aussi une sorte d'opportunité, je ne vais pas dire une chance, mais d'opportunité pour pouvoir réaliser autre chose.
Une initiation. Mais je dirais aussi, puisque ça a été dit, je dirais aussi que ce qui me paraît très important dans ce témoignage, c'est qu'en fait, il y a deux pertes importantes, mais le sujet, c'est-à-dire la personne qui parle, ne s'est pas perdue. Alors c'est ça qui serait finalement là, parce que dans la vie on va avoir des pertes, on va avoir des tas de choses de ce genre. Mais l'essentiel, c'est que quand on est soi, vous disiez que tout à l'heure qu'est-ce que c'est soi, quand on est soi, ce qui est très important, c'est de pouvoir perdre des êtres ou des objets, etc. Mais qu'on soit pas perdu soi-même et qu'on puisse avoir suffisamment d'énergie et de narcissisme pour se reconstruire et continuer son chemin.
Merci beaucoup Martine d'être intervenue ce matin. Sylvie sur notre page Facebook nous dit « Voilà 4 ans que je suis sur le chemin douloureux des séparations, mort d'un père, licenciement en simultané et séparation de mon conjoint. C'est effectivement comme une nouvelle naissance. » Moussa Nabati, pour vous, il n'est pas possible de se quitter dans la haine, oui, la vengeance, la colère. On ne peut se quitter que dans la paix.
Absolument.
Et ça retarde, et ça retarde la vraie séparation, de rompre dans la haine, la colère,
absolument,
etc.
Dans la paix et l'amour. Alors on va être étonné en disant, mais un couple qui est dans la détestation mutuelle, comment est-ce qu'ils pourront s'aimer, puisqu'ils se séparent parce qu'ils disent qu'ils ne s'aiment plus et qu'ils se détestent? Eh bien, ce qui est très important, moi j'ai eu beaucoup de patients dans cette perspective, ce qui est très important, c'est de dire, bien sûr, on s'aime pas, on s'aime plus, etc., mais on sait aimer. Et ça, c'est quelque chose de précieux, parce qu'en fait, quand on a aimé quelqu'un, c'est indélébile. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer l'amour qu'on a eu pour quelqu'un. Et de la même façon, tous les souvenirs heureux, bien sûr, maintenant, on va se quitter, mais tous les souvenirs heureux ne sont pas des souvenirs perdus, mais c'est un capital. C'est un capital qu'on va conserver. Donc, c'est cet amour qu'on a eu l'un pour l'autre, et c'est ce bonheur qu'on a vécu ensemble, qui peuvent effectivement nous aider, dans ici et maintenant, à nous séparer, pour s'orienter ailleurs.
Aurélia Schneider.
Oui, bah c'est exactement ça. C'est capitaliser sur tout ce qui s'est passé,
exactement,
mutualiser ses ressources.
C'est pas perdu.
Non.
Fabienne Kramer.
D'ailleurs, les couples toxiques, ce sont ces couples qui n'arrivent pas à se séparer. Et en général, ils génèrent plus de la dépendance affective que de la capacité, voilà, à exister ensemble. Le cas extrême étant le pervers narcissique,
voilà,
qui va rendre tout le monde dépendant,
absolument,
de lui. Uniquement parce qu'il a peur d'être quitté,
absolument,
lui-même.
Et s'ils n'arrivent pas à se séparer, c'est qu'ils n'ont jamais été en lien vrai d'adulte à adulte dans la gratuité du désir.
Mais
quand on a des liens, le lien permet la séparation et la séparation permet le lien. C'est un peu paradoxal.
C'est un paradoxe.
Mais psychologiquement, c'est comme ça que ça marche.
Fabienne Kramer.
Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous avez appris à vous séparer, vous pouvez vous réinvestir dans une relation, dans un projet professionnel, dans quelque chose, avec cette part d'adulte qui a grandi en vous et donc dans des conditions beaucoup plus libres et beaucoup plus... J'ai bien aimé votre terme de gratuité.
Oui,
une
gratuité,
vraie gratuité
du désir.
Gratuité du désir.
Oui, c'est joli, voilà, ça.
Mais on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup. Je recommande votre ouvrage, Moussa Nabati, Réussir la séparation. C'est publié chez Fayard. Le sous-titre, c'est Pour tisser des liens adultes. Merci Fabienne Kramer. L'un de vos derniers livres, allez-y, citez-le.
C'est 21 clés pour l'amour slow.
Exactement. Merci Aurélia Schneider d'être venue. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Grand Bien Vous Fasse. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Inter.